C'est pas parce qu'on s'est pas assez fait expliquer pourquoi qu'on est en Afghanistan. On comprend très bien les enjeux, c'est parce qu'on s'y oppose radicalement.
Les massacres que les soldats onisiens ont commis contre le peuple haïtien, surtout le peuple des bidonvilles.
Sécurité, ce qui arrive, c'est que ça permet au gouvernement canadien de détenir quelqu'un sans charge, sans accès à la preuve.
On oublie souvent les questions de base qui définissent ce conflit. Ce conflit, c'est avant tout un conflit sur la terre.
Question de l'avortement. Alors, c'est pour ça que je suis ici avec ma fille, la belle fille, qui est la relève. On continue.
Queremos mandar un saludo para los radioescuchas de parte de los zapatistas.
Radio Centre-Ville 102.3 FM. Bienvenue à cette édition de En bas à gauche. Je serai seule avec vous aujourd'hui pour vous parler de plusieurs situations, quelques entrevues qu'on a réalisées pour vous, notamment avec Charles Perrault d'Amnesty International de la branche francophone canadienne sur la campagne contre la peine de mort, puisque ce matin, en fait, nous attendons les nouvelles du comité de grâce dans le cas de Troy Davis, un jeune noir qui est condamné à mort pour un prétendu assassinat d'un policier blanc, malgré le fait que tous les témoins se soient rétractés et dit avoir été forcés. Alors on écoutera ça en deuxième partie d'émission. Également l'anti-hebdo pour tous les gens qui ont jeté leur télévision ou simplement ont décidé de pas acheter de décodeur et d'enfin s'en débarrasser, ce qu'ils n'avaient pas le courage de faire. On vous parlera donc de toutes les activités sociopolitiques à ne pas manquer à Montréal. Également une chronique art et danse. On vous parlera de Danse à 10, de la deuxième porte à gauche. Ce sera également en deuxième moitié d'émission. Il est à peine 9h02, alors on va commencer l'émission avec une entrevue avec Maude du projet Accompagnement Solidarité Colombie. Mais vous me direz si vous êtes habitué de l'émission. Mais voyons, Maude, c'est une de tes co-animatrices. Et non, hier, c'était une personne que j'ai interviewée. Donc, c'est la même, vous reconnaîtrez la voix, mais cette fois-ci pour parler de ce qu'elle fait en dehors de la radio, le projet Accompagnement Solidarité Colombie et la situation de violation de droits humains par des compagnies canadiennes qui sont accusées d'avoir fait assassiner une personne en Colombie pour s'y être opposée. Mais je vous en dirai pas plus puisqu'on va introduire ça tout de suite. Bonne écoute, restez avec nous.
Que son de la barricada y de dónde son, que son de la barricada.
Nous sommes rejoints par téléphone par Maud du projet Accompagnement Solidarité Colombie. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on t'a invité aujourd'hui à l'émission pour par rapport à une situation qui a eu lieu en Colombie et un communiqué conjoint de plusieurs organisations qui a circulé récemment suite à l'assassinat du père Reynel Restrepo à Marmato en Colombie, qui était un opposant aux minières canadiennes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette personne et de sa situation?
Oui, alors ben, pour comprendre un peu la position dans laquelle se trouvait Reynel Restrepo, le curé du village de Marmato, faut savoir un peu l'histoire de Marmato. Donc, c'est un petit village qui est situé dans le département de Caldas, en Colombie, où il y a historiquement toujours eu de l'exploitation minière. Donc, dès que les Espagnols sont arrivés et qu'ils ont mis en esclavage la population autochtone de la région, ils ont exploité des mines à Marmato. Donc, ça fait plus de 500 ans qu'il y a de l'exploitation minière. Par contre, les Espagnols étant partis, du moins sur le terrain, ce sont les descendants des esclaves africains et les descendants des esclaves autochtones qui avaient été forcés de travailler dans la mine qui ont continué l'exploitation artisanale des gisements d'or à Marmato. Donc, c'est un village qui vit de l'activité minière artisanale. Plus de 6000 personnes dépendent directement de l'activité artisanale minière pour leur subsistance. Donc, les problèmes commencent quand les compagnies transnationales de l'industrie minière achètent des concessions dans la région. Et ce sont les Canadiennes, en fait, qui vont faire incursion dans le territoire. En 2005, on a la Colombian Gold Fields qui va commencer à acheter plusieurs concessions minières dans la région de façon frauduleuse selon les organisations sociales du coin, puisque ces concessions ne pouvaient pas être vendues à des firmes étrangères selon les règlements en vigueur dans la région de Caldas. Ces concessions minières-là étaient destinées seulement à des activités de subsistance. Donc, on parle ici d'une activité minière artisanale qui a pour but de donner de quoi vivre aux familles qui habitent là et non d'une exploitation à grande échelle par des entreprises étrangères qui vont envoyer les profits à l'extérieur de la Colombie. Donc, c'est deux choses vraiment différentes. La Colombian Gold Fields commence donc à acheter des terrains en 2005. Je vous passe les détails des fusions et défusions entre compagnies canadiennes, mais en 2010, c'est en fait la Mineral Resources qui a terminé l'achat de toutes les concessions minières dans la région. Pour ce que prévoit la Mineral Resources, pardon pour l'accent, c'est une exploitation de mines à ciel ouvert, donc une exploitation d'or qui demande de toute la montagne de Marmato. En fait, le village est construit autour d'une montagne. Alors, on voudrait ouvrir entièrement cette montagne-là pour exploiter les gisements d'or. Et de ce fait, il faut déplacer tout le village de Marmato. C'est impossible de faire une mine à ciel ouvert et laisser les gens vivre en dessous. La compagnie en est très consciente. Donc, un peu avant 2010, on va commencer à circuler des rumeurs comme quoi il faut déplacer tout le village. Même les autorités municipales, les autorités du département vont être complices d'une certaine campagne de propagande mensongère où ils vont envoyer des communiqués alerte en disant « la campagne est sur le bord de s'effondrer, il y a un danger imminent pour la vie des habitants, on demande à tout le monde de quitter l'endroit immédiatement ». Alors, il y a un premier déplacement qui va se faire et puis certaines organisations de la région vont être plutôt sceptiques, disons, face à cette alerte et vont commencer à faire des pressions sur les représentants de la compagnie minière pour savoir s'ils veulent réellement faire une mine à ciel ouvert et c'est pas pour ça, finalement, qu'on demande à la population de se déplacer. La Mineral Resources va dire que non, qu'il n'est pas question de mine à ciel ouvert, que non, non, non. On va apprendre plus tard. D'une part, qu'il n'y a eu aucun examen, là je connais pas les termes techniques, là, sismographique, je pense, qui aurait pu déterminer un effondrement de terrain. Donc, c'était vraiment une fausse information. Et on va apprendre également qu'en effet, la Mineral Resources prévoit l'ouverture d'une mine à ciel ouvert. L'année peut-être mentionné que là, je vous parle à Mineral Resources, mais finalement, depuis à peine 3 mois, c'est la Grand Columbia Gold qui a racheté les avoirs de la Marmato. Grand Columbia Gold, qui est également une entreprise canadienne. Mentionnons d'ailleurs que le régime de pension du Canada investit un portefeuille d'actions de 6 millions de dollars dans cette entreprise. Donc, c'est un peu l'argent de tous et chacun qui finance, si on veut, ce projet de mine d'or à ciel ouvert en Colombie. Donc, ça, c'est un peu pour placer le contexte. Il y a bien sûr une très vive opposition de la part de la population. D'une part parce que les gens ne veulent pas se déplacer, on comprendra, ils ne veulent pas abandonner leur village, leurs écoles, leur commerce, etc., toute leur économie locale. Et d'autre part, parce que les gens vivent de l'activité minière artisanale, mais depuis que les entreprises canadiennes sont arrivées, le gouvernement a déclaré illégal toute activité minière artisanale. Donc, il y a eu des opérations de police très musclées pour chasser les mineurs de leur mine. On a interdit toute vente d'explosifs dans la région. Donc, les gens qui continuent à faire de l'exploitation minière artisanale le font en créant eux-mêmes leurs explosifs. On peut s'imaginer les conséquences en termes de blessés et etc., d'accidents de travail. Et donc, il y a une opposition très forte. Et c'est là qu'intervient le curé, le père José Renel Restrepo, qui est... j'ai un peu de misère à traduire. Sacerdoté, qui est le curé, en fait, le curé de la paroisse de Marmato. Alors, il est curé à cette place-là depuis 2 ans et il a commencé à parler contre le déplacement de la population en disant non, la population de Marmato doit rester sur place et doit continuer ses activités de subsistance, qu'on parle d'agriculture ou d'activités minières artisanales. Alors, le père, puisque c'est un curé, bon, vous imaginez qu'il y a une certaine notoriété. C'est la figure publique, si on veut, de l'opposition aux minières canadiennes dans la région. Alors, qu'est-ce que fait le père concrètement, le curé? C'est qu'il s'est rendu fin août à Bogota pour parler dans un forum public où il disait toute son opposition au projet de mine ouverte de la compagnie Grand Columbia Gold. Il a également mentionné avoir reçu des pressions de la part de la compagnie qui lui demandait de déplacer sa paroisse à l'extérieur de la zone minière pour ne plus être présent dans le conflit qui oppose la compagnie à la population. Il y a même eu des rumeurs qui ont circulé comme quoi sa paroisse était à vendre. Donc, le curé a bien sûr sorti publiquement pour dire « Je pense que c'est la compagnie qui fait circuler ces fausses rumeurs disant que ma paroisse est à vendre. Elle n'est pas à vendre et je compte rester sur place. Je compte rester avec la population locale et obtenir qu'on ait le droit de rester où on habite depuis plus de 500 ans. » Alors, c'est un peu le portrait... si on veut, du contexte, qui a amené seulement quelques jours après son allocution publique, qui a amené à l'assassinat du père Renel Restrepo, donc retrouvé mort sur la route près de Marmato. Les autorités disent que ce serait seulement un acte de délinquance. Ce que les organisations sociales de la place disent, c'est que c'est un assassinat politique. Donc, directement ou indirectement, ce sont les compagnies minières canadiennes qui sont impliquées. Ce sont elles qui avaient tout intérêt à voir disparaître cet opposant public à la mine.
Cette histoire s'inscrit dans un contexte, et notamment dans un contexte économique et politique particulier en ce moment entre le Canada et la Colombie, puisque c'est les débuts de la mise en application de l'accord de libre-échange. C'est quoi l'analyse générale que font les organisations de cette situation?
Pour ce qui est des organisations canadiennes, ce qu'elles demandent, c'est qu'il y ait des mécanismes qui soient mis en place pour assurer que les entreprises canadiennes rendent des comptes dans le contexte du conflit armé en Colombie, donc qu'elles ne puissent pas bénéficier, voire provoquer des violations de droits humains pour réaliser ou poursuivre leurs activités économiques. La position du PASC, du projet Accompagnement Solidarité Colombie, et de ses partenaires en Colombie, est quelque peu différente dans la mesure où on ne croit pas qu'il est possible de faire une exploitation minière. On parle de grande exploitation minière de la part de transnationales en Colombie sans qu'il y ait nécessairement des conséquences au niveau des vies humaines, au niveau de la sauvegarde du territoire, de la biodiversité, etc. Ce qu'on voit en Colombie, c'est que les entreprises transnationales qui investissent le font nécessairement avec un très grand investissement au niveau de la sécurité. C'est-à-dire d'engager des troupes de sécurité privées, habituellement formées par d'anciens militaires colombiens, des militaires qui sont formés en stratégie de contre-insurrection, c'est-à-dire qui sont formés pour contenir, détenir toute opposition. Alors, ça, c'est la partie publique. La partie qui est cachée et que les organisations en Colombie essaient de dénoncer, c'est que souvent, ces entreprises transnationales, dont les minières canadiennes, vont également avoir recours aux forces paramilitaires sur le terrain pour nettoyer le territoire, c'est-à-dire avant l'arrivée de la compagnie, on va s'assurer que sur le territoire, l'entièreté de la population a été traumatisée par des actes de terreur dont sont capables les troupes paramilitaires. On parle de torture, on parle de viol, on parle de massacre, etc. Une fois que la population est complètement terrorisée, que la plupart sont sortis du territoire face à l'entrée des paramilitaires, eh bien là, on a ce qu'on appelle un territoire pacifié, entre guillemets, c'est-à-dire où il n'y aura pas d'opposition. Parce que le contrôle social, politique est très fort, mais également le contrôle économique, puisque les paramilitaires ou voire même les éléments de l'armée nationale vont contrôler tout le transport dans la région. Il est donc impossible de poursuivre avec une économie locale autonome. Donc, il y a d'une part l'usage, ou du moins le fait que ces entreprises bénéficient de la stratégie paramilitaire avant de rentrer sur un territoire, mais il y a également plusieurs cas qui ont été très bien documentés, même certains sont allés jusqu'à des cours, où les entreprises étrangères ont directement financé les forces paramilitaires pour soi-disant sécuriser leur investissement. Encore là, les guillemets sont en rouge fluo. Un exemple concret qui concerne une Canadienne qui est tristement connue au Canada, c'est la Canadienne Talisman. Alors, vous l'avez sûrement, Talisman Energy, vous avez sûrement entendu parler d'elle pour son implication dans les gaz de schiste ou dans le nucléaire ou dans les sables bitumineux, etc. Elle a très mauvaise presse au Canada. Elle va en avoir une encore pire en Colombie puisqu'elle vient de racheter tous les avoirs de la British Petroleum. British Petroleum qui a été dénoncée au niveau international pour avoir financé à coups de millions de dollars les forces paramilitaires Autodéfense Unie de Colombie. Alors, il y a plusieurs exemples comme ça qui nous font croire que si des entreprises sont intéressées à investir en Colombie, c'est parce qu'elles savent qu'elles peuvent compter sur des forces privées ou publiques de sécurité qui vont lui permettre de n'avoir aucune opposition à leur projet. Et si c'est le cas, s'il y a formation d'un syndicat, bien, qui va leur permettre aussi d'avoir accès à des briseurs de grève, à des tueurs à gages qui vont éliminer toute organisation syndicale. La Colombie est encore, et tristement, le premier pays au monde en ce qui a trait à l'assassinat de syndicalistes. Donc, un pays où il n'y a aucun respect pour l'organisation syndicale et pour les droits du travail. C'est en fait pour cette raison que les États-Unis ne voulaient pas signer un accord de libre-échange avec la Colombie. Ça, c'est drôle à dire, mais le Congrès, les démocrates au Congrès ont toujours bloqué la signature de l'accord de libre-échange. Alors, c'est aussi dans ce contexte-là qu'il faut remettre la signature de l'accord de libre-échange entre le Canada et la Colombie. Quand Harper s'est rendu en Colombie la première fois pour annoncer l'ouverture des négociations sur l'accord de libre-échange, il s'est entretenu avec Uribe, l'ancien président mondialement reconnu pour ses liens avec le paramilitarisme en Colombie. Et c'était le seul président, le seul premier ministre qui a osé ouvrir des négociations pour un accord de libre-échange avec la Colombie sous le temps d'Uribe. Donc, Harper a vraiment été le seul à venir serrer la main à Uribe pour lui dire « On est prêt à négocier, nos entreprises ont soif de profit et veulent investir dans votre terre pacifiée, entre guillemets. »
Donc, c'est justement aussi dans ce contexte-là que le PASC a une campagne pour directement cibler ces entreprises-là. Donc, ciblons les profiteurs canadiens de la guerre. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la campagne?
Oui, ben écoute, je pense que le nom le dit en soi. Alors, la campagne, c'est ciblons les profiteurs canadiens de la guerre en Colombie. Ce qu'on entend par là, c'est bien sûr les compagnies canadiennes qui profitent ou voire provoquent la violence politique en Colombie pour le plus grand bien de leur profit, mais au détriment de la population et surtout des organisations sociales colombiennes. On entend par là non seulement les compagnies canadiennes, mais également l'État canadien, par exemple l'implication de l'ACDI, Agence canadienne de développement international en Colombie, mais également celle d'Industrie Canada, du ministère des Affaires étrangères et du Commerce, etc. Donc notre idée, c'est de dire ce qui se passe en Colombie, c'est pas strictement un conflit interne et c'est encore moins, comme les médias, les mass-médias le prétendent, un conflit entre un État de droit et des forces terroristes. Alors pas du tout. C'est un conflit social et politique qui a plus de 60 ans, mais qui est alimenté par des intérêts impérialistes. Alors j'ai pas le temps ici de décrire en quoi consiste le plan Colombie ou toute l'intervention, toute l'implication militaire des États-Unis en Colombie. Mais ce qu'on entend, nous, c'est de dénoncer en quoi il y a des intérêts économiques étrangers qui alimentent et font en sorte que ce conflit-là va perdurer et que la violence politique va être utilisée de façon systématique à grande échelle contre toute la population colombienne. Alors, on se dit, le PASC est au Canada, nous sommes des Canadiens, donc où est-ce qu'on a un impact? Ben, c'est en ciblant les acteurs canadiens qui sont cause de la guerre que vivent les Colombiens.
Alors, si on veut avoir plus d'informations sur la campagne, se tenir au courant via votre liste de diffusion?
Oui, alors vous pouvez visiter notre site web www.pasc.ca. PASC, c'est PASC.ca. Donc, PASC pour Projet Accompagnement Soldaté Colombie.ca. Et vous allez retrouver sur notre site une section qui traite des profiteurs canadiens de la guerre. Donc, je vous ai parlé brièvement de la Medero Resources, de la Grand Columbia Gold, de Talisman. Malheureusement, il y en a énormément d'autres. On suit ce que fait SNC-Lavalin en ce moment en Colombie, ou la Pacifico Rubiales, une compagnie pétrolière qui, face aux demandes des syndicats cet été, a envoyé l'armée pour briser les manifestations contre elle. Donc, vous allez retrouver plusieurs cas de compagnies canadiennes que les organisations syndicales et sociales de Colombie entendent dénoncer au niveau international. Et nous, on fait la traduction et le suivi de ces cas-là.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Bien, je vous remercie.
Alors, nous étions avec Maud du projet Accompagnement Solidarité Colombie. On va prendre une petite pause musicale. Louis-Philippe, qu'est-ce qu'on écoute?
Alors, on écoute la Internacional de Sistemas Sonoros Cartel de Chile.
Arriba los pobres del mundo, que tienen los esclavos sin pan. Vivemos todos unidos, viva la Internacional. Robamos todas las trabas que oprimen al pueblo. el hombre es hermano, se hace la desigualdad, la tierra será el paraíso, bello de la humanidad.
Sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM, vous écoutiez la chanson internationale de Son Rosso Cartel à l'écoute de En bas à gauche. Il est 9h27 et il nous reste une demi-heure d'émission et on va s'entretenir avec Charles Perrault d'Amnesty International sur la campagne contre la peine de mort et également rester avec nous pour une chronique art et danse sur la création artistique danse à 10 de la deuxième porte à gauche. Et on finira avec l'anti-hebdo, tous les événements à ne pas manquer à Montréal dans les prochains jours. Une petite pause publicitaire d'ici là. Restez avec nous, 102.3 FM.
Soirée entraînante avec tactique.
Ouais, là, je suis prêt à jouer un gros match.
Amour à distance, rupture.
C'est quoi ton problème, toi?
Famille moderne, problème moderne. Nouvelle saison de tactique, lundi au vendredi, 18h30, à Télé-Québec, l'autre télé.
Radio Centre-Ville, 102,3 FM ou www.radiocentreville.com. Captez tous les samedis, à l'heure de l'équipe haïtienne, l'émission Espace communautaire, pour vous mettre à jour sur les divers événements et activités de la communauté. À partir de 17h30, avec Gladys Demosthène et Jean Rodnil.
Voulez-vous passer des moments agréables? Alors écoutez tous les mardis, à partir de 5h30, Nagent Koumagent, avec au menu chronique, de la bonne animation et comme toujours de la bonne musique pour tous les goûts. Joignez-vous à nous avec notre équipe dynamique portugaise à Radio Centre-Ville 102.3 FM.
Global Montréal et la Fondation Fabienne Cola vous invitent au 7e Festival international du film Black de Montréal du 22 septembre au 2 octobre. Venez découvrir la culture noire des quatre coins du globe à travers les plus grands films Black. 125 films palpitants, 80 premières, 35 pays. Admission, 10 $ par film. Carte ciné accès de 10 films, 70 $. Ou encore, carte ciné film illimitée, 100 $. Du 22 septembre au 2 octobre au cinéma du Parc, à l'Impérial et à l'ONF. MontréalBlackFilm.com.
Plusieurs langues, plusieurs communautés, une même implication sociale. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
En bas, à gauche. Enjeux et mobilisation.
Rejoint par téléphone par Charles Perrault de Amnesty International. Bonjour Charles.
Bien, bonjour.
Alors, on vous invite aujourd'hui notamment pour la coordination pour l'abolition de la peine de mort d'Amnesty International au Canada francophone, qui invitait hier à un événement d'Aïn à Montréal pour protester contre l'exécution probable de Troy Davis dans les prochains jours, qui a été condamné à mort en 1991. Alors, peut-être pour commencer, un petit peu de contexte sur l'histoire de Troy.
Bien, à l'époque, il est un jeune noir de 18 ans à Savannah, près d'Atlanta, en Géorgie. Et tard, en fin de soirée, dans l'annonceur, il y a un policier blanc, Mark Allen McPhail, qui a été tué par balle, donc dans un stationnement. Et Troy Davis a été arrêté par la suite et condamné à mort la base d'aucune preuve. Ils n'ont jamais retrouvé l'arme du crime, ils n'ont jamais eu de preuves matérielles, pas plus que de traces d'ADN. C'est sous la base de 9 témoins oculaires, 9 témoins qui, depuis, il y en a 7 qui sont revenus sur leur témoignage en disant qu'ils avaient été contraints par la police, certains étant pauvres, noirs, et certains avaient un passé criminel, donc on les menaçait de retourner en prison et tout. Donc, c'est dans ce contexte-là. Le huitième a témoigné sans jamais pouvoir l'identifier clairement. Et le neuvième, Sylvester Coles, est actuellement celui qu'on soupçonne le plus d'être l'auteur du crime. Il était présent ce soir-là. Il avait eu une arme du même calibre que celle qui a servi à tuer le policier. Et selon certains nouveaux témoins, il se serait vanté qu'il avait échappé belle à l'époque. Donc, c'est dans ce contexte-là. Troy en est maintenant à sa quatrième date d'exécution depuis 2007. À toutes les fois, il a obtenu un sursis à la dernière minute, sous la pression, pas simplement d'Amnesty, mais Amnesty a toujours été derrière, mais aussi de d'autres groupes abolitionnistes aux États-Unis. Et cette fois-ci, bien, c'est la dernière chance, là, parce qu'il n'y a plus d'autres recours possibles. Donc, ce qu'on demande, c'est que le comité des grâces en Géorgie lui donne clémence et commue sa peine pour qu'au moins la vérité sur cette affaire puisse voir le jour éventuellement.
Alors, malheureusement, la situation de Troy est sans doute pas une des seules. Est-ce que c'est quelque chose de courant comme ça que les gens se voient donner plusieurs dates d'exécution et jusqu'à à peine quelques jours, puisqu'on parle d'une exécution mercredi soir? Il y a encore des comités en train de statuer sur la situation. Quel est le fonctionnement, en fait, de toute cette machine?
Bien, ça diffère. Aux États-Unis, ça diffère vraiment d'un État à l'autre. La Géorgie, dans bien des États, c'est le gouverneur qui a le dernier mot. Donc, par exemple, au Texas, qu'on entend souvent parler, bien, c'est le gouverneur Rick Perry qui a le choix, à la dernière minute, de statuer et de prendre en compte ou non la recommandation du comité des grâces. Dans ce cas-ci, en Géorgie, c'est différent et c'est la décision du comité des grâces. Le gouverneur n'a pas de poids dans la décision. Donc, en fait, il y avait des audiences aujourd'hui devant le comité des grâces qui devaient entendre, entre autres, certains des nouveaux témoins. Il y avait aussi trois jurés de l'époque qui ont fait des dépositions comme de quoi, si la décision était à refaire, ils ne condamneraient pas à mort Troy Davis à la lueur des informations qui ont circulé depuis la condamnation. Et Amnesty, bon, ça fait quoi? On est rendu à environ 900 000 signatures qui ont été déposées depuis vendredi. Et aussi, il y a des appuis de gens qui sont pour la peine de mort habituellement, mais dans ce cas-ci, ils viennent dire que ça discréditait totalement le système d'aller de l'avant avec une exécution alors que de tels sérieux doutes existent toujours. Donc, le processus, finalement, la décision a été retardée, ce qu'on a entendu cet après-midi. La décision sera rendue publique demain matin, donc ce qui veut probablement dire qu'il y avait encore des dissensions au sein du comité des grâces et que ça n'était pas unanime à ce moment-ci et qui ont préféré attendre demain pour essayer de s'entendre entre-temps.
Et donc, dans les campagnes, ici et ailleurs, contre la peine de mort, quel est un peu le panorama, la situation? Est-ce qu'il y a des gens qui, effectivement, réussissent à ne voir leur peine commuée ou des révisions?
Oui, ça, c'est pas dans tous les cas, évidemment, mais bon, on peut prendre simplement la semaine dernière, suite aux pressions, la Cour suprême des États-Unis au Texas a donné un sursis à Dwayne Buck, qui était un cas très particulier compte tenu des préjugés raciaux qui ont entaché son procès. Donc, ça dépend des cas, c'est pas systématique, évidemment, ils feront pas... ils plieront pas sous la pression toutes les fois, mais c'est assez courant qu'on puisse obtenir des sursis, des changements de peine avec une bonne pression soutenue qui vient d'abord à l'intérieur même des États-Unis, parce que la pression simplement de l'extérieur n'est pas très bien perçue. Donc, faut vraiment que ce soit un effort concerté. Oui, ça fonctionne, et évidemment, encore là, bien souvent, le jeu politique vient en compte. Hein. Donc, il faut s'y prendre de diverses manières.
Donc, la campagne pour l'abolition de la peine de mort fait partie des campagnes d'Amnesty. On peut retrouver de l'information sur votre site, notamment sur le cas de Trey Davis, mais sur bien d'autres, j'imagine?
Oui, à amnesty.ca/PDM, pour faire court. Vous avez ce qu'Amnesty prône. Évidemment, on milite beaucoup côté États-Unis. Il y a une grosse victoire qu'on a obtenue au printemps avec l'abolition en Illinois. Mais on fait aussi beaucoup de pression partout ailleurs, notamment en Iran, où on soutient un cas d'un Canadien qui est condamné à mort sous de très douteuses, encore une fois, inculpations d'un Canadien qui est là depuis 2008. Hamid Gachemichal, mais on fait également des actions sur de nombreux pays. Cette année, la Journée mondiale qui aura lieu dans 3 semaines, le 10 octobre, fait notamment état de la situation de Biélorussie, qui est le dernier pays européen à maintenir la peine de mort. Donc, c'est le pays visé cette année par la grande campagne du mouvement.
Si on veut en savoir plus sur la grande campagne, sur des événements, est-ce qu'il y a des informations qui sont déjà disponibles?
Oui, si vous visitez la page web sur la peine de mort, elle est bien à jour, et au fur et à mesure que les événements se confirment, on les rajoute, et les gens qui veulent agir, il y a une section action, et toutes les actions en cours qu'on propose sont là, et donc les gens peuvent agir tant en ligne que par écrit pour faire pression.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Charles.
Merci à vous.
Alors, nous étions avec Charles Perrault d'Amnesty International francophone au Canada. Sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, vous écoutez En bas à gauche. On va prendre une petite pause musicale avec Webster, un rappeur de Québec, et la chanson Québec History X, pour nous rappeler que l'histoire afro-américaine ne s'arrête pas à la frontière sud du Québec, mais que ça fait bien partie de notre histoire ici aussi.
Ramer dans le temps pour quelques instants, dévoiler des faits qu'on n'apprend pas forcément. J'entretiens une autre histoire, celle qu'on voit pas dans les cours. Amérindiens et les noirs, celle qu'il faut remettre à jour. Par où commencer, pour vous dire comment c'est. D'abord, faut nuancer l'histoire de commencer. Manipuler les décrets par le facteur, nous une partie dissimulée, les hypocrites d'être possible. Maquinédé, sourd de 1604, Jean plein débarque avec un support en plaque. Mathieu Lacosta dit l'interprète, il parle Micmac français et hollandais. En 1629, Paris, Olivier le jeune, premier esclave répertorié dans la jeune ville de Québec. Au moins 10 000 esclaves au Canada, jusqu'à l'abolition de ce droit en 1833. Et c'est fou, à force de fureté en match, découvert que Lionel Gros prenait la pure génération. C'est la même pour Garneau, FX Garneau, Québec History X, nous ont facilité le tableau. Mais pourtant, il y avait des hommes d'affaires noires, on était dans les régiments, tout était pour hors des bois. C'est des aubergistes, et ils veulent nous faire croire que les noirs sont ici depuis les années 66. 719 points de sergent Baptiste, médecin d'hier, fondé un poste de traite dans l'Illinois. Nowadays, on l'appelle Chicago, black francophone à fond des Chicago. J.J. Robinson, Oliver Jones et Oscar Peterson. La liste est longue, mais pas tant que ça. Robert oublié qu'on contribuait à ne passer, mais peu à nous oublier. 400 ans d'histoire, 6 millions de raisons de me faire oublier de croire et de me souvenir. C'est tout ce que j'ai peur de devenir quand on y pense une minute, mi avance une minute. 400 ans d'histoire, 6 millions de raisons de me faire oublier de croire et de me souvenir. C'est tout ce que j'ai peur de devenir quand on y pense une minute, mi avance une minute. Au 19e siècle, c'est pas du tout fini. Ils ont envoyé les Chinois faire le chemin de fer de tout le pays. Les donateurs vivants les envoyaient creuser la roche. Avec la nitro glycérine, ça sautait à leur approche. Le pain des Chinois, ça vient de là. Bœuf, maïs et patates, tout ce qu'on trouve dans le website. Un top et moi, ça a rien d'oriental. C'est une mixture qu'on leur donnait pour les nourrir en tas. Maintenant les Indians, ah les Indians, hein, ils l'ont eu bad. Les Indians viennent de ça à grande échelle, à trop grande échelle. La mémoire des Amériques était à jamais cherchée. Première simple, matériel logique. On leur donnait des couvertures de bébés de variole. Tu vois la suite d'un choc microbiologique et viol culturel. Être vu en étranger sur sa propre parcelle. De terre ancestrale, c'est l'ère industrielle. Fait qu'encore 21e siècle, l'âme des ancêtres. On parle de col, de viol et d'alcool dans les fioles. Le haut tout soucié de mon fucking alcool. Dans les réserves, je comprends qu'il y en a qui s'attaquent. Au gouvernement, comme dans le temps, qu'elle est attaquée. 6 millions de raisons de me faire oublier de croire et de me souvenir. C'est tout ce que j'ai peur de devenir quand on y pense une minute, mi avance une minute. 400 ans d'histoire, 6 millions de raisons de me faire oublier de croire et de me souvenir. C'est tout ce que j'ai peur de devenir quand on y pense une minute, mi avance une minute.
I'm not controversial, I'm just speaking facts. I speak with your weak mind lack. I'm not controversial, I'm just speaking facts. Wake you up out of your brainwashed face.
En bas à gauche, chronique culturelle.
La deuxième porte à gauche, c'est une compagnie jeune, est-ce qu'on peut encore dire jeune, en tout cas une compagnie de production en danse qui a été formée par des gens sortant de l'école de danse, interprètes et chorégraphes, et qui se donne comme mission, si on peut dire, et plaisir et action, d'investir des espaces publics ou des espaces qui sont pas habituels pour la danse contemporaine. Il s'agit de sortir de la boîte noire dans laquelle ont lieu les shows d'habitude, puis d'aller se confronter, puis questionner le rapport entre les artistes et le public, entre l'œuvre d'art et le contexte dans lequel c'est proposé, et entre tout ce qui est décalé ou à partir du moment où c'est décontextualisé. Fait que la deuxième porte à gauche, on produit déjà plusieurs spectacles de genre. Ils ont occupé, cette équipe-là a occupé une vitrine de Simon sur Sainte-Catherine, a fait un show dans des apparts privés intimes, dans des espaces intimes. Ils ont travaillé dans la rue. Et cette fois-ci, pour ce spectacle-là qui s'appelle Danse à 10, donc, ils investissent le Kingdom Gentlemen's Club, qui est un bar de danseuses sur la rue Saint-Laurent. Puis avant d'aller un petit peu plus loin là-dedans, ce que j'ai envie de dire, c'est que bon, cette saison-ci, ce que je vous ai proposé comme chronique danse, c'est non pas tant des chroniques régulières cette fois-ci, mais d'intervenir quand il est possible de faire un lien ou de faire une réflexion conjointe entre l'œuvre d'art qui est proposée et la dimension sociopolitique qui est en jeu. Ici, c'est évidemment ce qui est en question, c'est le rapport au travail du sexe, la représentation du travail du sexe, la réalité du travail du sexe, puis la manière dont on se l'imagine et on entre en interaction avec le métier et aussi les personnes qui l'exercent. Fait qu'aujourd'hui, si ce que cherche à faire la deuxième porte à gauche, c'est effectivement brouiller les frontières entre spectateurs, spectatrices et artistes sur scène, ou plutôt brouiller les frontières des lieux dans lesquels on aperçoit ou on expérimente ces propositions artistiques, on peut dire que dans ce cas-ci, ça réussit. Puis là, j'ai envie de vous en parler un peu à brûle pour point, un peu en dérive, notamment pour illustrer, pour faire exprès, pour pas être trop structuré, pour illustrer effectivement le brin de déroute dans laquelle ça met. On rentre au Gentleman's Club, le Kingdom, et puis c'est un espace, pour les personnes qui y sont déjà allées ou qui voient, c'est un espace qui est grandiose. Il y a des lions dorés, des velours rouges, des arbres à l'intérieur. On passe un détecteur de métal. C'est très le décorum, l'espace est scéniquement déjà très, très chargé. Fait que déjà, on peut se dire que c'est pas pour rien que des artistes choisissent cet espace-là plutôt qu'un autre. Il est comme tout l'espace est théâtral. Et ce qu'a fait la deuxième porte à gauche, c'est inviter 8 équipes de chorégraphes et d'interprètes à travailler ensemble sur des numéros qui vont apparaître tout au long de la soirée sur la scène principale, mais aussi des solos qui ont lieu dans les isoloirs où se passent les danses à disques, qui sont des danses à vingt, dans les isoloirs. Alors toute la soirée, chacune des équipes circule dans l'espace puis viennent solliciter les gens pour que tu les suives et que tu ailles expérimenter un solo tout seul dans un isoloir aussi avec les personnes. Et effectivement, quand on rentre dans l'espace, on est dans l'espace, il y a les films porno qui sont là, on les a pas enlevés, ils sont présents. Et puis après le show de la deuxième porte à gauche, je vois se passer la programmation régulière du Kingdom. Fait que, effectivement, les gens se mélangent, mais bien sûr, on sent tout de suite que c'est pas les spectateurs et les spectatrices habituels de ce qui passe là. Il y a un décalage dès le départ. Puis une des choses sur laquelle j'ai envie d'insister ou peut-être parce que tu vois, c'est un peu difficile de l'aborder, on sait pas trop si on l'aborde du point de vue du regard de l'œuvre d'art ou de ce qui s'est passé humainement. Si on regarde d'un point de vue féministe ou d'un point de vue militant, comment est-ce qu'on l'aborde? Un des trucs flagrants, c'est dans les propositions des 8 équipes de chorégraphes et d'interprètes. Un show comme ça, ça se monte, chacune des équipes travaille de son côté, puis après ça, il y a un assemblage ensemble. Puis un des trucs qui était vraiment très, très flagrant, c'est que la majorité des équipes ont fait des choix dramatiques. Ils ont fait des courbes dramatiques. Pour la plupart, sauf un peut-être qui est comme beaucoup dans la dérision, mais pour la plupart, on est toujours dans des courbes descendantes, en fait, puis les mouvements sont descendants, mais littéralement, là, tu sais, les interprètes, les filles partent du haut des poteaux puis se laissent glisser jusqu'en bas, les corps descendent, il y a une espèce de sentiment de... il y a une apesanteur qui s'installe. On n'est pas tant dans le jeu ou la représentation de la chute de la jeune fille naïve, pas du tout, mais on est quand même dans la tristesse, dans la courbe dramatique. C'est comme ça qu'on s'est représenté les choses. Puis, de façon assez flagrante, j'avais en tête, au moment où j'ai repensé, j'y étais, le contraste entre cette énergie-là ou cette représentation qu'on a pu se faire et l'énergie qui a cours dans, par exemple, les cabarets que monte Stella pour en soutien à la lutte pour la fin du mépris, pour faire de la place à la pleine autodétermination des travailleurs et travailleuses du sexe, pour la reconnaissance de ce que ces femmes-là vivent comme réalité et de la reconnaissance aussi de ce que toutes ces femmes-là font comme lutte contre la violence faite aux femmes. Le contraste est comme absolument évident. Tu sors d'un cabaret de Stella, t'es galvanisé, t'as de l'énergie à en revendre, t'as envie de te joindre complètement à elle, alors que dans ce spectacle-là, on était beaucoup dans la tristesse. Si je parle d'un point de vue un petit peu plus artistique, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à dire, en fait. Puis j'ai envie aussi de vous inviter à aller lire les critiques, mais les lire non pas comme des critiques pour se dire est-ce que c'est un bon show ou pas un bon show, mais pour observer de quelle manière est-ce que les gens qui ont écrit dans les journaux ont abordé cet objet-là, la manière dont chacune des personnes qui écrit la borne entre fait qu'il y a des critiques je vais juste vous les nommer pour que vous y alliez. C'est comme il y a des critiques dans Le Voir, dans la presse, dans Le Devoir, j'essaie de retrouver le nom là, c'est pour ça que je patauge, une fille qui s'appelle Elsa, je ne le retrouve plus, allez le voir, c'est dans Le Voir en tout cas, et la critique de Catherine Lalonde aussi, pour voir de quelle manière est-ce qu'on se représente et le travail de représentation et le travail du sexe. Un des trucs que j'ai envie de dire aussi, ce qui est assez intéressant, c'est ce sur quoi travaillent les gens. On peut voir aussi les personnes qui sont citées dans ces articles-là. Je pense à Marie Bellan, on entend parler Clara Fré, on entend parler Mélanie Demers, on entend parler... ce qu'on voit aussi, c'est la démarche que ces personnes-là mènent. Ils parlent du fait que les questions qu'ils se demandent, c'est qu'est-ce que la différence entre la danse qu'on retrouve dans l'espace... dans un espace scénique, puis la danse qu'on retrouve sur scène. Là, qu'est-ce qu'on a en commun comme interprète en danse contemporaine avec les effeuilleuses ou les filles qui développent des techniques du corps? À ce sujet-là, j'ai eu une conversation avec Mélanie Demers, qui est une des chorégraphes qui travaille avec deux interprètes, une qui fait partie de sa compagnie régulière, Angie, et Sarah Eleonore, qui, elle, a travaillé comme danseuse, qui a travaillé déjà au Kingdom aussi. Puis toute la conversation que j'ai pu avoir avec Mélanie portait autour de la rencontre entre les deux univers, de la rencontre, la manière dont on perçoit la nudité, parce qu'en danse contemporaine, on travaille beaucoup la nudité des corps, on les montre. On les travaille, on les façonne, puis là, manifestement, ce qui se confrontait, c'est qu'on n'a pas la même perception de ce qu'est la pudeur. Certains gestes en danse contemporaine peuvent être extrêmement crus, mais ils sont acceptables. Et puis, un des trucs qui est notable aussi, c'est qu'une jeune compagnie de production qui investit un club de danseuses se retrouve en première page du voir, ce qui n'est pas le cas des filles qui y travaillent en général. Et ça révèle la représentation qu'on se fait, et c'est clair que le mépris qui est porté sur les travailleuses du sexe est absolument pas la reconnaissance et la fascination qu'exercent des métiers de la scène par ailleurs. Et donc, je reviens avec Mélanie Demers, qui me parlait beaucoup de la rencontre et de la confrontation, de toutes les façons de voir, de percevoir le jeu du corps, la manière d'être sur scène, la manière dont Sarah Eleonore construit son personnage de Betty Wall versus la manière dont les interprètes construisent leur personnage. Et ça, moi, j'ai trouvé ça, effectivement, si on le prend d'un point de vue militant, politique, féministe, passablement inspirant, parce que... parce qu'on cherche effectivement à déplacer son regard puis à recevoir réellement ce qui est la parole, la posture et l'expérience de la personne qui est en face. C'est plus inspirant que ce qu'on a pu voir cette semaine dans les propositions d'action pour la journée contre la violence faite aux femmes, où certaines... parmi les actions proposées, il y avait celle d'entrer dans un club de danseuses et de pousser un grand cri un hurlement de colère. C'est un geste super brutal, en fait, à l'endroit des personnes et des femmes qui leur mettaient certainement pas dans l'écoute et dans la rencontre. Fait qu'en ça, on peut dire que la démarche, puis là, je peux pas élaborer sur ce que fait chacune des personnes et comment chacun des solos s'est élaboré. Si on en parle d'un point de vue artistique, on a aussi bien reconnu les signatures de chacune de ces chorégraphes-là. On a reconnu les femmes qui piaffent de Manon Oligny, qui, elle, est une chorégraphe qui travaille beaucoup sur la représentation du corps, sur la sexualité, sur l'imaginaire de la sexualité. On a reconnu je pense à un moment, je parlais de Mélanie Demers, il y a un instant où ce que propose Mélanie Demers, c'est justement un striptease, mais elle parodie l'aspect entertainment du truc, puis on poursuit jusqu'après le striptease, jusqu'à ce que le personnage s'assoit après qu'elle ait fini son show, s'allume une cigarette, puis ce qui se passe ensuite, c'est aussi une figure du désenchantement dans ce cas-ci. Artistiquement, il y a eu un instant d'étincelle dans ce moment-là parce qu'on s'est retrouvé dans un univers de cinéma avec, comme s'il y avait eu une intégration de tout lieu avec la personnage, avec l'éclairage, avec sur scène. On voyait une scène de cinéma. Puis dans ce show-là, c'est assez mouvant en fait. C'est-à-dire que chacun des faut l'accoter ce lieu-là. Là. Il est scénographiquement vraiment très très fort. Puis peut-être un dernier mot puisque on va dans tous les sens pour
puisque
conclure.
Puisque c'est les dernières secondes.
Exactement. Donc pour conclure, dans l'isoloir, je suis allée avec justement ce personnage Betty Wild, et ce qu'elle a mis en scène avec Mélanie Lemire, c'est tout ça, et Angie, c'est un rapport de pouvoir, en fait. Littéralement un rapport de pouvoir. Et leur solo fonctionne vraiment très, très bien, puisque effectivement, pour un peu qu'on laisse pas dissiper l'énergie en riant ou en s'évadant, puis qu'on le fait vivre, c'est un moment assez désagréable qui est assez fort, notamment parce qu'il nous questionne sur les rapports de pouvoir qui sont en jeu. Voilà. Alors, c'est encore au Kingdom les 19, 25, 26 et 27 septembre, et j'aimerais que vous y alliez et qu'on en reparle.
Sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM. Il est bientôt 10h, il nous reste à peine 2 minutes, alors je ne vous nommerai que quelques événements de notre anti-hebdo. Alors, abat votre télévision. Jeudi 22 septembre, ça va être la Journée internationale sans voiture. À cet effet-là, vous êtes invités à participer à plusieurs activités, dont notamment à Montréal, un die-in. Donc, cette activité pour mimer l'activité, les conséquences des voitures, donc la mort. Alors, le rendez-vous est à 17h30 au Square Phillips le 22. Donc c'est organisé par le comité qui organise la Journée internationale sans voiture à Montréal. Également, samedi 24 septembre, Perspective Queer sur la migration et la criminalisation, défaire les frontières, c'est une tournée de partage d'informations. Alors ce sera avec d'un collectif de San Francisco et également des gens de Montréal. Ça va être en après-midi, samedi, de 1h à 4h. Ça va être organisé au GRIP Concordia 1500 de Maisonneuve Ouest, local 204. Donc beaucoup plus de détails sur le site de solidaritésansfrontières.org. De nombreux événements aussi tout le reste de la semaine. Je vous parlerai juste de la soirée relation dimanche soir à la Maison Bellarmand au 25 rue Jarry Ouest sur la décroissance. Donc la décroissance, est-ce possible et viable? Plusieurs personnes dont Serge Mongeau seront là à ne pas manquer. Vous pouvez aller voir toute l'information sur cjf.qc.ca. Pour trouver d'autres activités à Montréal, n'hésitez pas, le Centre des médias alternatifs du Québec, cmaq.net, également l'agenda militant.info pour toutes les bonnes adresses et les événements alternatifs, culturels et sociopolitiques. C'est ce qui termine cette édition de En bas à gauche sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM. Vous pouvez nous retrouver sur internet enbasagauche.wordpress.com, réécouter le contenu des émissions. Alors on vous souhaite une bonne semaine et on vous retrouve la semaine prochaine.
La canción y su autor, una emisión dedicada a la música latinoamericana y española, ainsi que ses artistas. Tous les dimanches de 11h30 à midi sur les ondes de Radio Centreville 102.3 FM. Je vous y attends.
Voici à quoi ressemble une décision.
Veuillez vous lever.
Vous avez le choix de boire de l'alcool avant de conduire. Si vous tuez quelqu'un alors que vos facultés sont affaiblies, vous pourriez vous retrouver en prison pour longtemps. Cela en décourage plusieurs, mais encore trop de gens s'en sortent sans graves conséquences. C'est une honte. Chez MAD Canada, nous croyons que les victimes ont droit au respect. Les contrevenants méritent d'aller en prison.
Changez pour le mieux.
MAD Canada. Aidons les victimes. Mettons fin au crime.
En Afrique de l'Est, 11 millions de personnes subissent les conséquences de la pire sécheresse des 60 dernières années. Les populations manquent d'eau et de nourriture, les enfants et les personnes âgées luttent pour leur survie, et la situation ne fait que s'aggraver de jour en jour. Les membres de la coalition humanitaire, Aide à l'enfance, CARE, Oxfam et Plan, sont déjà sur le terrain pour porter secours à la population. Votre don permettra d'acheminer de toute urgence de la nourriture, de l'eau potable et des médicaments aux familles les plus vulnérables. Faites un don en ligne à coalitionhumanitaire.ca ou appelez le 1-800-464-9154. Agissez maintenant. Coalition humanitaire. Ensemble, nous sauvons plus de vies.
Nous représentons la réalité multiculturelle de Montréal. Plusieurs langues, plusieurs communautés, une même implication sociale. En matière de musique, Radio Centre-Ville vous fait voyager aux quatre coins du monde. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.